Chapitre 7 Nocturne, la fin. 1 Mia était de retour au château, mais cette fois-ci c'était différent. Cette fois-ci, elle ne se déplaçait pas avec lenteur, jouant avec sa faim, sachant qu'elle serait bientôt rassasiée, totalement rassasiée, qu'elle et son petit gars seraient contentés. Cette fois, elle ressentait à l'intérieur d'elle-même un désespoir vorace, comme si un animal sauvage tournait en cage dans son estomac. Elle comprit que ce qu'elle avait ressenti au cours de toutes ses expéditions passées n'était pas du tout de la faim, pas de la vraie faim, mais un sain appétit. Cette fois-ci, c'était différent. « Son heure approche, se dit-elle. Il a besoin de manger plus pour prendre des forces. Et moi aussi. » Pourtant, elle avait peur. Elle était terrifiée. Peur que ce ne soit pas qu'une question de quantité. Elle avait besoin de manger quelque chose de précis, quelque chose réservé aux grandes occasions. Ce petit gars en avait besoin pour... pour achever sa métamorphose. Oui, c'était ça, la métamorphose. Elle était sûre de trouver ça dans la salle de banquet, car on trouvait de tout dans la salle de banquet. Un millier de plats, tous plus succulents les uns que les autres. Elle butinerait la table, et lorsqu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, le bon légume ou la bonne épice, la bonne viande ou les bons œufs de poisson, ses nerfs et ses boyaux le réclameraient à grands cris, et alors elle mangerait. Oh, elle en gloutirait. Elle pressa encore l'allure, puis se mit à courir. Elle avait vaguement conscience de ses jambes se frottant l'une contre l'autre, car elle portait un pantalon, un jean, comme un cow-boy. Et au lieu de ses mules, elle avait des bottes. « Des bottillonnes !» lui murmura une petite voix dans son esprit. « Des bottillonnes, grand bien m'en fasse !» Mais tout ça n'avait aucune importance. L'important, c'était de manger, de baffrer. Oh, qu'elle avait faim ! Et de trouver le bon aliment pour le petit gars. Trouver cet aliment qui allait les rendre forts tous les deux et qui déclencherait le travail. Elle dévala le grand escalier à toute vitesse dans le murmure régulier des turbos à transmission lente. Des bouquets délicieux auraient déjà dû l'envelopper, des odeurs de viande rôtie, de volailles grillées, de poissons aux herbes. Pourtant, elle n'en respirait aucun. « J'ai peut-être un rhume ?» se dit-elle, tandis que ses bottillonnes raclaient les marches du grand escalier. « Ça doit être ça, j'ai un rhume. Mes sinus sont gonflés et je ne sens rien. » Pourtant, si. Elle sentait la poussière et les années de ce lieu. Elle sentait l'eau infiltrée avec cette petite pointe d'huile de moteur et le salpêtre grignotant sans relâche les tapisseries et les tentures dans les chambres de la ruine. Tout ça, mais pas de nourriture. Elle filait sur le sol de marbre noir en direction des doubles portes sans avoir conscience qu'on la suivait. Une fois encore, cette fois non pas le pistolero, mais un garçon aux cheveux ébouriffés et aux yeux écarquillés, portant une chemise et un caleçon en coton. Mia traversa le vestibule au sol à damier rouge et noir, passa devant la statue de marbre et d'acier finement entrelacée. Elle ne prit pas le temps de faire la révérence, ni même de faire un signe de tête. Cette faim impérieuse était supportable pour elle, mais pas pour son petit gars, jamais pour son petit gars. Ce qui l'arrêta, et l'espace de quelques secondes seulement, ce fut son propre reflet, laiteux et imprécis, dans l'acier chromé de la statue. Au-dessus de son jean, elle vit une chemise blanche toute simple. « On appelle ça un t-shirt, » lui murmura la voix, avec des choses écrites dessus et un dessin. L'image d'un cochon. « Ne t'occupe pas de ce qu'il y a sur ta chemise, femme. C'est le petit gars qui compte. Tu dois nourrir le petit gars. » Elle surgit dans la salle à manger et s'arrêta net, bouche bée de consternation. La pièce était envahie par les ombres. Quelques flambeaux électriques brûlaient encore, mais pour la plupart, ils s'étaient éteints. Sous ses yeux, le dernier encore allumé au bout de la pièce se mit à clignoter, grésilla, et la lueur disparut. Les assiettes blanches, pour les grandes occasions, avaient été remplacées par des assiettes bleues, décorées par des motifs de tendres pousses de riz entrelacées. Les pousses formaient les grandes lettres Z haine qui, elle le savait, signifiait éternité et viens, comme dans viens comme malin. Mais les assiettes n'avaient aucune importance. Leurs ornements n'avaient aucune importance. Ce qui comptait, c'est que ces assiettes et ces magnifiques verres en cristal étaient vides et flétris de poussière. Non, tout n'était pas vide. Dans un verre, il trouva une veuve noire, morte, les pattes repliées contre le sablier rouge au centre. Elle aperçut le goulot d'une bouteille de vin qui saillait d'un seau en argent, et son estomac émit un gémissement pressant. Elle attrapa le seau, remarquant à peine qu'il ne contenait plus d'eau, encore moins de glace. Il était complètement sec. La bouteille au moins pesait lourd, et elle entendit le liquide bouger à l'intérieur. Mais avant que Mia ait pu poser les lèvres sur le goulot, le relent piquant du vinaigre lui fit pleurer les yeux.
« Putain de bordel !»
cria-t-elle en jetant la bouteille par terre.
« Putain de putain !»
La bouteille éclata sur le sol de pierre. Sous la table, on entendit une galopade et des petits cris de surprise.
« Oui, cassez-vous, ça vaut mieux »
hurla-t-elle.
« Cassez-vous, qui que vous soyez !» Voici Mia, fille de personne, et elle n'est pas de bonne humeur. Et je vais manger, ça, oui, oui.
C'était bien parlé, mais sur le coup, elle ne vit rien sur la table de mangeable. Il y avait bien du pain, mais le morceau qu'elle avait saisi était dur comme la pierre. Elle croyait voir des restes de poisson, mais ils avaient pourri et baigné dans un jus verdâtre, grouillant d'asticots. Son estomac se mit à gronder. Pas le moins du monde découragé par ce spectacle. Pire, quelque chose situé sous son estomac ne cessait de se retourner, de donner des coups de pied, d'exiger sa nourriture. Il ne le faisait pas de manière audible, avec sa voix, mais en déclenchant comme des boutons de commande en elle, dans la partie la plus primitive de son système nerveux. Elle sentit sa gorge devenir sèche. Elle eut une moue de dégoût comme si elle avait bel et bien bu le vinaigre. Elle écarquilla les yeux et sa vision s'affina. La moindre pensée, le moindre sens, le moindre instinct tendaient vers cette seule et unique obsession, la nourriture. Au-delà du bout de la table, une tapisserie représentait Arthur l'aîné, sabre au clair, chevauchant dans les marais avec trois de ses chevaliers pistoleros derrière lui. Enroulé autour de son cou se trouvait Saïta, le grand serpent, qu'il venait probablement de mettre à mort. Encore une quête couronnée de succès. Grand bien. Les hommes et leur quête. Bah ! Qu'est-ce que ça pouvait lui faire à elle, cette histoire de grand serpent ? Elle avait son petit gars à elle, et le petit gars avait faim.
« L'eau faim ?»
murmura dans sa tête cette voix qui ne cessait pas, comme la sienne.
« L'eau faim ?»
Derrière la tenture, les doubles portes. Elle passa en les faisant claquer, toujours sans voir ce garçon, Jake, qui se tenait à l'autre bout de la salle à manger, en caleçon, et qui la regardait d'un air effrayé. La cuisine était tout aussi vide, tout aussi poussiéreuse. Les comptoirs étaient tatoués de trous de bestioles. Les casseroles, les poêles et les portants à vaisselle étaient éparpillés sur le sol. Derrière ce fouillis, elle vit quatre éviers, dont l'un rempli d'eau stagnante sur laquelle était apparue une écume d'algues. La pièce était éclairée par des tubes sourd-feu, dont seuls quelques-uns marchaient encore correctement. La plupart clignotaient, s'allumaient, s'éteignaient, conférant à ce spectacle de dévastation un aspect surréaliste et cauchemardesque. Elle se fraya un chemin à travers les débris, repoussant à coups de pied les récipients et les casseroles qui lui barraient le passage. Elle arriva devant quatre grands fours alignés. La porte du troisième était entr'ouverte. Il en sortait une vapeur diffuse, comme une petite fumée émanant de la terre quelques heures après un incendie, et une odeur qui fit de nouveau tempêter son estomac. C'était l'odeur de la viande fraîchement rôtie. Mia ouvrit la porte. À l'intérieur, elle trouva en effet une sorte de rôti, avec un rat de la taille d'un chat de gouttière en train de s'en délecter. Au bruit métallique, il tourna la tête vers elle, elle observa de ses yeux noirs et sans peur. Ses moustaches luisantes de gras s'agitèrent, puis il retourna à son rôti. Elle entendait le marmonnement juteux et le déchirement de la chair qu'on arrache.
« Non pas, monsieur le rat, ça n'est pas pour toi, c'est pour moi et mon petit gars !»«
Je te donne une chance, l'ami, » chantonna-t-elle en se tournant vers les comptoirs et les placards derrière elle. « Tu ferais mieux de partir tant que tu peux encore. Je t'aurais prévenu. » Mais monsieur le rat l'avait faim, lui aussi. Elle ouvrit un tiroir dans lequel elle ne trouva que des planches à pain et un rouleau à pâtisserie. Elle envisagea une seconde d'utiliser ce dernier, mais elle ne voulait pas arroser son dîner avec plus de 100 draps que nécessaire. Elle ouvrit le bas du buffet et trouva des moules à brioche et autres matériels fantaisie pour confectionner des desserts. Elle fit un pas à gauche, ouvrit un autre tiroir et finit par dénicher ce qu'elle cherchait. Mia contempla les couteaux et, après réflexion, s'empara d'une broche à viande. Les deux dents d'acier mesuraient une 20aine de centimètres. Elle se dirigea vers les fours, hésita, puis jeta un œil à l'intérieur des 3 autres. Comme elle l'avait prévu, ils étaient vides. Quelque chose, un destin, une providence, un cas, avait laissé là de la viande fraîche, mais juste pour un. Monsieur le rat avait fait une erreur. Elle ne le laisserait pas en faire une seconde, pas de ce côté de la clairière en tout cas. Elle se pencha, et une fois encore, l'odeur du porc fraîchement cuit lui chatouilla les narines. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et la bave perla aux commissures. Cette fois, monsieur le rat ne prit pas la peine de se retourner. Monsieur le rat avait décidé qu'elle ne représentait aucun danger.
Très bien.
Elle s'inclina plus bas, retint sa respiration et empala l'animal sur la broche à viande. « Kebab de rat à volonté !» Elle le tira hors du four et le tint devant elle à hauteur de son visage. Il poussait des hurlements stridents et furieux, agitant les pattes dans le vide, secouant la tête d'avant en arrière, tandis que le sang coulait le long du manche de la broche et s'étalait en flaques sur son poing. Elle le porta, toujours frétillant, jusqu'à l'évier rempli d'eau stagnante, et d'un coup de poignet le fit glisser dans la broche. La bête tomba dans le magma et disparut. Pendant une seconde, le bout de sa queue continua de remuer à la surface, puis disparut à son tour. Elle passa devant les éviers, un à un, essaya tous les robinets, et du dernier s'écoula un mince filet d'eau. Elle rinça sa main dégoulinante de sang jusqu'à épuisement de la réserve d'eau. Puis elle retourna près du four en s'essuyant la main sur l'arrière de son pantalon. Elle ne vit pas Jake, qui se tenait à présent à l'entrée de la cuisine, bien qu'il ne fît aucun effort pour se cacher. Elle était totalement obnubilée par l'odeur de la viande. Ce n'était pas suffisant, ce n'était pas exactement ce que son petit gars voulait, mais ça ferait l'affaire pour le moment. Elle tendit la main, attrapa le plat par les côtés, le tira à elle dans un petit souffle, secouant les doigts, le sourire aux lèvres. C'était un rictus de douleur, pourtant pas totalement dénué d'humour. Ou bien monsieur le rat était un tantinet plus résistant à la chaleur qu'elle, ou bien il était encore plus affamé. Bien qu'il lui fût difficile de croire que quiconque pût avoir plus faim qu'elle en cet instant précis.
« L'enfin ! »
hurla-t-elle, riant aux éclats, tandis qu'elle ouvrait puis refermait tous les tiroirs à la volée.
« La mia ! Voilà une dame qui a bien faim, ça, oui, monsieur ! Elle n'est pas allée à Mahoz, elle est allée dans aucune maison, mais elle a faim ! Et mon petit gars a faim, lui aussi ! »
C'est dans le dernier tiroir, toujours la même histoire, pas vrai, qu'elle trouva les gants qu'elle cherchait. Elle se précipita vers le four, se baissa et sortit le plat. Sous le choc, son rire s'arrêta net, pour repartir de plus belle, plus fort et plus tonitruant que jamais.
Quel cruche elle faisait ! Quelle espèce de grosse bêtasse ! Pendant une seconde, elle avait pensé que le rôti qu'on avait cuit juste à point pour faire craquer la peau et que M. Leras n'avait grignoté qu'à un coin serait le corps d'un enfant. Et à bien y regarder. Oui ? Un cochon, ça ressemblait un peu à un enfant. Un bébé ? Le petit gars de quelqu'un ? Mais à présent qu'elle avait sorti le plat, qu'elle voyait les oreilles calcinées et la pomme dans la gueule de l'animal, elle n'avait plus aucun doute sur l'espèce. Elle s'installa sur le comptoir en repensant au reflet qu'elle avait aperçu dans le vestibule. Mais ce n'était pas la question pour le moment. Ces boyaux n'étaient plus qu'un grondement de famine. Elle prit un couteau de boucher dans le tiroir où elle avait déjà trouvé la broche et découpa la partie entamée par M. Leras comme on découperait le trou d'un ver dans la chair d'une pomme. Elle balança le morceau par-dessus son épaule, puis attrapa le rôti entier à pleine main et enfouit le visage dedans. Depuis la porte, Jake l'observait. Quand elle eut apaisé la première vague de faim, Mia balaya la cuisine du regard avec une expression oscillant entre calcul et désespoir. Qu'était-elle censée faire quand elle aurait fini le rôti ? Qu'était-elle censée manger la prochaine fois qu'une fringale aussi violente surviendrait ? Et où devait-elle aller chercher ce que le petit gars voulait vraiment, ce dont il avait vraiment besoin ? Elle aurait fait n'importe quoi pour identifier cette chose et s'assurer que le petit gars n'en manquerait pas de cette nourriture ou de cette boisson spéciale, de cette vitamine ou quoi que ce fût. Avec le porc, elle n'était pas tombée très loin. Assez près pour lui permettre de se rendormir, que tous les dieux et l'homme Jésus en soient remerciés. Mais pas assez près. Elle rejeta la carcasse de saille cochonnet dans le plat, retira sa chemise par le haut et la retourna pour en voir le recto. C'était un cochon de dessin animé, écarlate et bien grillé, mais ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça. Il arborait un sourire d'extase. Au-dessus, en lettres rustiques qui faisaient penser à un panneau de ferme, on lisait l'inscription suivante « Le cochon du Sud, l'ex est 61e. » Et en dessous, les meilleures côtes de bœuf de New York. Gourmet Magazine. Le cochon du Sud, pensa-t-elle, le cochon du Sud, ça me dit quelque chose, mais quoi ? Elle n'en savait rien, mais elle se disait qu'elle pouvait trouver Lexington s'il le fallait. Ça serait là, entre la 3e et Park Avenue. C'est ça, pas vrai ? Le garçon, qui s'était éclipsé, mais en laissant la porte entrouverte, entendit ces paroles et hocha la tête d'un air malheureux. C'était bien là, pas de doute. Bien, 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 pensa Mia. Pour l'instant, tout baigne, autant que possible. En tout cas, et comme le dit cette femme dans le livre, demain est un autre jour. Ah, chaque jour suffit sa peine. Pas vrai ? Si. Elle reprit le rôti et se remit à manger. Les bruits de succion qu'elle produisait n'étaient pas si différents de ceux du rat. Vraiment pas si différents. 2. Tian et Zalia avaient fait de leur mieux pour donner leur chambre à Eddie et Susanna. Les convaincre que leurs invités ne voulaient pas de leur chambre, qu'ils préféraient de beaucoup dormir ailleurs, qu'ils y seraient mal à l'aise, n'avait pas été une mince affaire. C'est Susanna qui avait fini par avoir raison d'eux en disant aux Jaffords sur le ton hésitant de la confidence qu'il leur était arrivé quelque chose d'horrible dans la cité de Ludd, quelque chose de tellement traumatisant qu'ils avaient désormais beaucoup de mal à dormir sous un toit. Sauf dans une grange dont on pouvait à tout moment voir la porte ouverte sur le monde extérieur. Voilà qui était beaucoup mieux. C'était une bonne histoire et finement tournée. Tian et Zalia l'écoutèrent avec une compassion crédule qui le fit se sentir coupable. Il leur était arrivé tout un tas de choses horribles à Ludd, c'était bien vrai, mais rien qui les rendit nerveux à l'idée de dormir à l'intérieur. Enfin, d'après lui. Depuis qu'il avait quitté son propre monde, ils n'avaient passé tous les deux qu'une seule nuit, la précédente, sous un vrai toit, dans une vraie maison.
À présent, il était assis en tailleur sur une des couvertures que Zalia leur avait données pour qu'ils les étendent sur le foin, en plus des deux autres. Il contemplait la cour, au-delà de la galerie où le grand-père avait raconté son histoire en direction du fleuve. La lune voltait derrière les nuages, apparaissant et disparaissant tour à tour, baignant la scène d'un voile d'argent, puis la laissant dans l'obscurité complète. Eddie voyait à peine ce qu'il regardait. Ses oreilles étaient tendues vers la grange, en dessous d'eux, vers les stalles et les enclos. C'était là qu'elle était. Quelque part, il en était certain. Mais, bon Dieu, elle ne faisait pas un bruit. Et d'ailleurs, qui est-elle? Roland dit qu'elle s'appelle Mia, mais ce n'est qu'un nom. Qui est-elle réellement? Mais ce n'était pas qu'un nom. Ça signifie « mère » en haut parlé, lui avait dit le pistolero. Ça veut dire « mère ». Ouais, mais elle n'est pas la mère de mon enfant. Le petit gars n'est pas mon fils. Sous lui, un bruit sourd, à peine audible, suivi par le craquement d'une latte. Eddie se raidit. Elle était en dessous. D'accord. Il commençait à avoir des doutes, mais plus maintenant. Il s'était réveillé après environ 6 heures de sommeil, sans rêve, pour découvrir qu'elle était partie. Il s'était approché de la porte de la grange qu'ils avaient laissée ouverte, et il avait regardé dehors. Elle était là, même sous le clair de lune. Il avait vu que ce n'était pas vraiment Susanna, dans ce fauteuil roulant. Pas sa Suze, ni Odetta Holmes, ni Detta Walker, d'ailleurs. Pourtant, elle lui était vaguement familière. Elle... Tu l'as vue à New York, seulement à l'époque. Elle avait des jambes, elle savait s'en servir. Elle avait des jambes, et elle ne voulait pas s'approcher de trop près de la rose. Elle avait ses raisons, et elles étaient bonnes. Mais tu sais quelle était la vraie raison, selon moi? Je crois qu'elle avait peur que la rose fasse du mal à la chose qu'elle porte dans son ventre, quelle qu'elle soit. Pourtant, il éprouvait de la compassion pour cette femme, en bas. Peu importait qui elle était ou ce qu'elle portait en elle, c'est en sauvant Jack Chambers qu'elle s'était mise dans cette situation. Elle avait retenu le démon dans l'anneau de la parole, elle avait piégé à l'intérieur d'elle juste le temps pour Eddie de finir de tailler la clé qu'il fabriquait. Si tu l'avais terminée plus tôt, si tu ne t'étais pas comporté en putain de poule mouillée, peut-être qu'elle ne serait pas dans un tel pétrin, t'y as pensé à ça? Eddie avait écarté cette pensée. Il y avait du vrai là-dedans, évidemment. Il avait bel et bien perdu confiance au moment de tailler la clé, et c'est pour cette raison qu'il n'avait pas pu la terminer à temps, au moment où la carte de Jake avait été tirée. Mais il ne voulait plus penser à ce genre de choses. Ça ne servait à rien, à part se flageller de manière très efficace. Le cœur d'Eddie s'était tendu vers cette femme, en bas, qui qu'elle fût. Dans le silence endormi de la nuit, dans ce cache-cache d'ombre et de lumière, elle avait poussé le fauteuil de Susanna à travers la cour, puis derrière, puis à gauche, et à droite enfin. Elle lui rappelait un peu ses vieux robots dans la clairière de Chardic, ceux que Roland lui avait fait descendre. Ces créatures sont emplies de tristesse à leur façon, et Diva abrégeait leur souffrance. Et c'est ce qu'il avait fait, après un discours persuasif, celui qui ressemblait à un serpent en kit, celui qui faisait penser au tracteur Tonka qu'il avait reçu pour son anniversaire, enfant, et ce méchant petit rat en acier. Il les avait tous abattus, à l'exception du dernier, une espèce de chauve-souris mécanique. C'était Roland qui avait eu celle-là. Tout comme les vieux robots, la femme dans la cour voulait aller quelque part mais ne savait pas où. Elle devait aller chercher quelque chose, mais ne savait pas quoi. La question pour lui, c'était, qu'était-il censé faire? Rien qu'attendre et observer, utiliser ce temps pour concocter d'autres bobards au cas où l'un d'entre eux se réveillerait et la verrait dans la cour, allant et venant dans son fauteuil. Encore un syndrome post-traumatique chopé à l'œud, peut-être. Ça me va, murmura-t-il. Mais à ce moment précis, Susanna avait pivoté et était revenue en direction de la grange avec un but cette fois-ci. Eddie s'était rallongé, prêt à faire semblant de dormir. Mais au lieu de l'entendre remonter, il avait perçu ce bruit sourd et métallique, un grognement d'effort, puis le craquement des planches à l'arrière du bâtiment. En imagination, il la vit s'extraire du fauteuil et ramper à toute vitesse. Mais vers quoi ? 5 minutes de silence. Il commençait à se sentir vraiment nerveux quand il entendit un cri perçant, un seul, bref et strident. Ça ressemblait tellement au cri d'un nourrisson qu'il sentait ses couilles se faire toutes petites et la chair de poule lui recouvrir la peau. Il jeta un regard en direction de l'échelle qui descendait au rez-de-chaussée et se força à patienter encore. C'était un cochon, un des petits, un porcelet, rien de plus. Peut-être, pourtant ce qu'il avait en tête, c'était les jeunes jumeaux. La petite surtout. Lia, ça rime avec Mia. Des bébés, c'était encore des bébés. Et c'était grotesque d'imaginer Susanna en train de trancher la gorge à un enfant complètement insensé, mais... Mais ce n'est pas Susanna en bas. Et si tu commences à croire que c'est elle, tu vas souffrir, comme tu as déjà souffert. La souffrance, bon Dieu. La mort, oui, quasiment la mort. Il avait bien failli se faire arracher la tête par les obstrusités. C'est Detta qui m'a livré aux bestioles. Et là, ça n'est pas Detta. Oui. Et il avait dans l'idée, c'était plutôt une intuition en fait, que celle-là pouvait bien être beaucoup plus supportable que Detta, mais il n'était pas assez bête pour parier sa vie là-dessus. Ou la vie des enfants. Des enfants de Tian et de Zalia. Il resta assis là, en nage, ne sachant pas quoi faire. Puis, au bout de ce qui lui parut une attente interminable, il entendit de nouveaux craquements et de nouveaux cris. Cette fois, il venait directement du bas de l'échelle qui menait au grenier. Eddie s'allongea de nouveau et ferma les yeux. Mais pas complètement. À travers l'écran de ses cils, il vit sa tête apparaître au-dessus de la ligne du sol. Au même moment, la lune surgit de derrière un nuage et inonda la pièce de lumière. Il vit le sang au coin de ses lèvres, aussi brun que du chocolat, et il se dit qu'il ne faudrait pas oublier d'essuyer au matin. Il ne voulait pas qu'un membre du clan de Jafforce la voie ainsi. « Ce que je veux, c'est voir les jumeaux, » pensa Eddie. « Les deux pères, tous les quatre, sains et saufs. Surtout Lia. Qu'est-ce que je veux d'autre ?» Que Tian ressorte de la grange les sourcils froncés, qu'il nous demande si on a entendu quelque chose la nuit dernière, un renard peut-être, ou même un de ces chats des roches dont il nous parle. Parce que vous voyez, il manque un des porcelets. J'espère que tu as caché les restes, Mia, ou qui que tu sois. J'espère que tu les as bien cachés. Elle vint près de lui, s'allongea, se retourna une fois, et s'endormit. Il le sut au rythme de sa respiration. Eddie tourna la tête et regarda en direction de la maison endormie des Jaffords. Elle ne s'est pas approchée de la maison. Non, à moins d'avoir poussé son fauteuil jusqu'à la grange, aller-retour bien sûr, d'avoir contourné le bâtiment, de s'être glissé par la fenêtre, de s'être emparé d'un des plus jeunes jumeaux, la petite, et de l'avoir ramené jusqu'à la grange, et... Elle n'a pas fait ça. Pour commencer, elle n'en a pas eu le temps. Peut-être pas, toujours est-il, qu'il se sentirait beaucoup mieux au matin, quand il verrait tous les enfants au petit-déjeuner, y compris Aaron, le petit aux jambes potelées, au petit bidon bien rond. Il repensa à ce que sa mère disait parfois quand elle croisait une jeune maman promenant son bébé dans sa poussette. « Il est tellement mignon, on en mangerait. »« Ça suffit. Dors maintenant. » Mais Eddie mit longtemps à se rendormir. 3. Jake s'éveillait en sursaut de son cauchemar, ne se rappelant pas où il se trouvait. Il se redressa, tremblant, s'enroulant les bras autour de la poitrine. Il ne portait rien d'autre qu'une chemise en coton toute simple, trop grande pour lui, et un caleçon en coton léger, un peu comme un short de sport, également trop grand pour lui. Qu'est-ce que... Il entendit un grognement, suivi d'un paix assourdi. Jake regarda d'où provenait le bruit, vit Benny Slightman enfoui jusqu'aux yeux sous deux couvertures, et tout rentra dans l'ordre. Il portait un t-shirt et un caleçon prêtés par Benny. Il se trouvait dans la tente de Benny, sur le promontoire qui surplombait le fleuve. Dehors, il y avait les berges rocheuses, avait dit Benny, bonne à rien pour le riz, mais une aubaine pour la pêche. Avec un petit peu de chance, ils pourraient même prendre eux-mêmes leur propre petit déjeuner dans la Devil Tate Y. Et Benny avait beau savoir que Jake et Otte devraient retourner chez le vieux rejoindre leur Dean et leur Kami pendant un jour ou deux, peut-être plus. Il se disait que Jake reviendrait peut-être plus tard. C'était un bon coin de pêche. Et un peu plus haut, on pouvait se baigner. Et puis il y avait les grottes, avec les murs qui scintillaient dans le noir. Et puis les lézards qui scintillaient, eux aussi. Jake s'était endormi, ravi à l'idée de découvrir ces merveilles. La perspective de se trouver là sans armes ne le réjouissait pas. Il en avait trop vu et trop fait ces derniers temps pour se sentir complètement rassuré sans armes. Mais il était certain qu'Andy gardait un œil sur eux. Et il s'était laissé aller à dormir profondément. Et puis, il avait rêvé. Un rêve horrible. Susanna dans les cuisines gigantesques et répugnantes d'un château à l'abandon. Susanna qui brandissait un rat hurlant empalé sur une broche à viande, le brandissant devant elle, hilare, tandis que le sang ruisselait le long du manche en bois de la broche pour lui dessiner une auréole autour du poignet. Ce n'était pas un rêve, et tu le sais bien. Il faudrait que tu le racontes à Roland. Et la pensée qui lui vint ensuite était encore plus dérangeante. Roland était déjà au courant. Et Eddie aussi. Les genoux remontés contre la poitrine et les bras serrés autour des tibias, Jake resta assis, plus malheureux qu'il ne l'avait été depuis le moment où il avait jeté un dernier regard à sa composition de fin d'année en anglais dans la classe de Madame Avery. Qu'est-ce que la vérité, ça s'appelait. Et bien qu'il en comprît bien mieux le sens à présent, combien ce texte lui avait été inspiré par ce que Roland appelait le Shining, sa première réaction avait été de la terreur à l'état brut. Maintenant, ce n'était plus vraiment de la terreur, mais plutôt, disons, de la tristesse. Oui, ils étaient censés former un quatre-têtes, un tout constitué de plusieurs, mais à présent, ils avaient perdu leur unité. Susanna était devenue quelqu'un d'autre, et Roland ne voulait pas qu'elle le sache, pas avec les loups en route, à la fois dans ce monde et dans l'autre. Les loups de la Cala, les loups de New York. Il voulait éprouver de la colère, mais il n'avait apparemment personne contre qui être en colère. Susanna était tombée enceinte en l'aidant lui, après tout. Et si Roland et Eddie la tenaient à l'abri de ce secret, c'était pour la protéger. « Ouais, super !» lui murmura une petite voix amère. « Ils veulent aussi s'assurer qu'elle pourra donner un coup de main quand les loups débouleront de tonnes foudres. » Ça ferait un fusil de moins si elle devait nous faire une fausse couche ou une dépression ou quelque chose. Il savait que ce n'était pas très juste de sa part, mais ce cauchemar l'avait drôlement secoué. C'est l'image du rat qui revenait surtout, du rat en train de se contorsionner sur la broche, et elle qui le brandissait, un énorme sourire aux lèvres. Ne pas oublier ça, ce sourire. Il avait entendu la pensée qui traversait son esprit à elle à cette seconde. Cette pensée disait « Kebab de rat !»« Tout Jésus !» murmura-t-il. Il se dit qu'il comprenait pourquoi Roland ne disait rien à Susanna au sujet de Mia et du bébé que Mia appelait le petit gars. Mais Le pistolero ne comprenait-il pas qu'il avait perdu quelque chose de bien plus important que ça, et qu'il le perdrait un peu plus chaque jour qui passait dans le silence? Ils savent mieux que toi ce qu'il faut faire, ce sont des adultes. Des conneries, pensa Jake. Si être adulte supposait réellement une connaissance supérieure, pourquoi son père continuait-il à fumer 3 paquets de cigarettes sans filtre par jour et à sniffer de la cocaïne jusqu'à s'en faire saigner les narines? Si être adulte signifiait savoir toujours quoi faire, pourquoi sa mère couchait-elle avec son masseur qui avait des biceps énormes mais rien dans le citron? Pourquoi ni l'un ni l'autre n'avait remarqué en ce printemps de 1977 qui menait doucement à l'été que leur gosse, qu'on surnommait Bama, enfin, seule la gouvernante le savait, était en train de devenir complètement barjot? Ça n'a rien à voir. Et si ça avait quelque chose à voir, finalement? Et si Roland et Eddie étaient tellement le nez sur leurs problèmes qu'ils ne voyaient pas la vérité? C'est quoi la vérité? Quelle est ta vision de la vérité? Il ne formait plus un quatre-têtes. Voilà ce que c'était sa vision de la vérité. Qu'avait dit Roland à Callahan au cours de la première palabre? Nous sommes un cercle qui roule vers son but. C'était la vérité, alors. Mais Jake pensait que tel n'était plus le cas. Il se remémora cette vieille blague qu'on disait quand on se retrouvait avec un pneu à plat. Bah, il n'y a qu'en bas qu'il est à plat. Voilà, c'était ce qui leur arrivait à eux. À plat, en bas. Non plus un vrai quatre-tête. Comment pourraient-ils encore en former un quand ils avaient des secrets les uns pour les autres? Et Mia, avec son enfant qui grandissait dans le ventre de Susanna, était-elle leur seul secret? Jake était sûr que non. Il n'y avait pas que ça. Roland leur cachait quelque chose, pas seulement à Susanna, mais à eux tous. « Unis, on peut battre les loups, » se dit-il. « En quatre-têtes, on le peut, mais pas comme maintenant. Pas ici, pas à New York non plus. » Je ne peux pas y croire. Cette pensée en appela une autre, si terrible qu'il essaya d'abord de l'écarter de son esprit. Mais il ne pouvait pas faire une chose pareille. Ça ne l'enchantait guère. Pourtant, il lui fallait considérer cette éventualité. « Je pourrais... » prendre les choses en main, décider de lui dire moi-même. Et puis quoi? Que dirait-il à Roland? Comment s'expliquerait-il? Je ne pourrais pas. J'aurais aucune explication valable à donner, aucune qu'il serait prêt à écouter. La seule chose que je pourrais faire... Il se rappela le récit de l'affrontement entre Cort et Roland, entre la vieille fouine cabossée avec son bâton et le jeune apprenti avec son faucon. Si lui, Jake, devait aller à l'encontre de la décision de Roland et révéler à Susanna ce que jusqu'ici on lui avait caché, cela le conduirait directement à sa propre épreuve de virilité. Et je ne suis pas prêt. Peut-être que Roland l'était, lui, tout juste. Mais je ne suis pas lui. Personne n'est lui. Il aurait le dessus sur moi et je serais envoyé seul à l'Est, à Tonnefoudre. Othé essaierait bien de m'accompagner, mais... je ne laisserai pas faire, parce que c'est la mort assurée là-bas. Sans doute pour tout un quatre-têtes comme le nôtre, et avec certitude pour un gosse livré à lui-même. Et pourtant, ces secrets que Roland gardait, c'était mal. Et alors, ils se retrouveraient tous ensemble, comme avant, pour entendre la fin de l'histoire de Callahan, et peut-être s'occuper de cette chose dans l'église du vieux. Que faudrait-il qu'il fasse alors? Parle-lui, essaie de le persuader qu'il se trompe. D'accord, il pouvait faire ça. Ce serait difficile, mais il pouvait y arriver. Allait-il aussi parler à Eddie? Jake se dit que non. Mettre Eddie dans le coup ne ferait que compliquer encore les choses. Autant laisser Roland décider de ce qu'il fallait dire à Eddie. Après tout, c'était Roland leur Dean. Le rabat de la tente trembla, et Jake porta automatiquement la main sur sa droite, là où le rugger avait été suspendu s'il avait porté le crampon de débardeur. Pas cette fois, bien sûr. Ce n'était que Hoté qui avait passé la truffe sous la toile de la tente et l'avait remontée pour essayer de rentrer la tête. Jake tendit le bras et caressa la tête du bafouilleux. Hoté lui prit délicatement la main entre les dents et se mit à tirer. Jake le suivit sans trop se faire prier. Pour lui, tout sommeil était à 10 milliers de kilomètres. À l'extérieur de la tente, le décor était une ébauche en noir et blanc tranchée. Une pente consultée de rochers descendait jusqu'au fleuve, large et profond, à cet endroit. Dans ces eaux, la lune brûlait comme une lampe. Jake s'immobilisa en apercevant 2 silhouettes sur la grève rocheuse. C'est alors que la lune se cacha derrière un nuage et que le monde s'obscurcit. Les mâchoires d'Hoté se refermèrent une nouvelle fois sur la main de Jake et il se mit à tirer. Jake le suivit, trouva un coin propice et se baissa à 4 pattes. Hoté se trouvait ainsi juste au-dessus de lui, lui soufflant dans l'oreille comme un petit moteur. La lune sortit de derrière son nuage. Le monde s'éclaircit de nouveau. Jake constata qu'Hoté l'avait mené à une sorte de promontoire de granit qui surgissait de terre comme la proue d'un vaisseau englouti. C'était une bonne cachette. De là, il observa le fleuve. L'une des 2 silhouettes lui était familière. Sa taille et les reflets de la lune sur le métal lui suffirent pour identifier Andy, le robot messager. Nombreuses autres fonctions. Quant à l'autre... Qui était l'autre? Jake plissa les yeux, mais il lui fut d'abord impossible de le reconnaître. Il se situait à au moins 200 mètres d'eux, et bien que le clair de la lune fût son allié, il était aussi trompeur. L'homme levait la tête vers Andy, et la lumière de la lune lui tombait droit sur le visage, mais ses traits paraissaient flous. Et ce chapeau que le gars portait? Il connaissait ce chapeau. Tu te trompes peut-être. Puis l'homme tourna légèrement la tête et le clair de lune se refléta en 2 éclairs jumeaux. Et alors Jake en fut certain. Il y avait peut-être des tas de cow-boys à la cala avec ce genre de chapeau rond. Mais jusqu'ici, Jake n'avait vu qu'un seul type avec des lunettes. Ok. C'est le pas de Benny. Et alors? Tous les parents ne sont pas comme les miens, certains s'inquiètent de leurs gosses, surtout quand ils en ont perdu un à la manière de M. Slightman avec la sœur jumelle de Benny. « Du brûle-poumon », avait dit Benny, ce qui voulait sans doute dire une pneumonie, 6 ans plus tôt. Alors on vient faire un petit peu de camping et M. Slightman envoie Andy nous surveiller d'un œil, et alors il se réveille au beau milieu de la nuit. Et il décide de venir s'assurer par lui-même que tout va bien. Peut-être que, lui aussi, il a fait un cauchemar. Peut-être bien, mais tout ça n'expliquait pas pourquoi Andy et M. Slightman tenaient leurs palabres si loin, au bord du fleuve, si? Eh bien, peut-être qu'il avait peur de nous réveiller. Peut-être que maintenant il va venir faire un tour du côté de la tente, auquel cas je ferais mieux d'y retourner. Ou peut-être qu'il va croire Andy sur parole quand il lui dira que tout va bien, et qu'alors il retournera au Rocking Bee. La lune se cacha de nouveau, et Jake jura préférable de rester là où il était en attendant qu'elle reparaisse. Lorsque la lumière revint, ce qu'il vit le remplit de la même perplexité que celle qu'il avait éprouvée dans son rêve quand il suivait Mia à travers le château désert. Pendant un instant, il se raccrocha à l'espoir que ce n'était peut-être là qu'un rêve, qu'il était simplement passé de l'un à l'autre. Mais la morsure des cailloux dans ses pieds et le souffle d'Hoté dans son oreille étaient bien réels. Tout ça était réel, pas de doute. Monsieur Slightman ne remontait pas en direction de la tente des garçons, ni du Rocking Bee d'ailleurs. En revanche, elle dit « Si, allons enjamber, le long de la rive ». Non, le père de Benny avançait dans la rivière, plein est. Il a sans doute une raison d'aller là-bas. Il a sans doute une excellente raison. Vraiment? Et quelle pourrait-elle être, cette excellente raison? Là-bas, ça n'était plus la cala. Jake savait au moins ça. Là-bas, il n'y avait rien d'autre que des étendues en friche et le désert comme un tampon entre les terres frontalières et le royaume des morts. Tonne foudre. D'abord, ça s'était mis à clocher avec Susanna. Son amie Susanna. Maintenant, quelque chose clochait visiblement avec le père de son nouvel ami. Jake se rendit compte qu'il se rongeait les ongles, une habitude qui lui était venue lors de ses dernières semaines à l'école Piper, et se força à arrêter. « C'est pas juste, tu sais, » dit-il à Otte. « C'est vraiment pas juste. » Otte lui lécha l'oreille. Jake se tourna vers le bafouilleux, passa les bras autour de lui et enfouit le visage dans la fourrure épaisse. Le bafouilleux se laissa faire patiemment. Au bout d'un petit moment, Jake se hissa de nouveau vers le sol plus plat où se tenait Otte. Il se sentait un peu mieux, un peu réconforté. La lune disparut de nouveau et tout devint sombre. Jake resta où il était. Otte se mit à gémir faiblement. « Rien qu'une minute, » murmura le garçon. La lune réapparut. Jake fixa attentivement l'endroit où Andy et Ben Steitman avaient tenu palabre pour l'ancrer dans sa mémoire. Il y avait un gros rocher rond, poli sur le dessus. Un tronc mort s'était échoué tout contre. Jake était pratiquement certain de savoir retrouver ce coin, même sans la tente de Benny comme repère. « Vas-tu en parler à Bolland ?»«
J'en sais rien, nom de nom, » murmura-t-il.
« Non, »
fit Otte à côté de sa fille, faisant sursauter légèrement le garçon. Ou bien était-ce non ? Était-ce vraiment ce qu'avait dit le bafouilleux ? « Est-ce que t'es fou ?»
Non, il ne l'était pas. Il avait cru un temps qu'il l'était bel et bien, déjà fou, ou bien y allant tout droit, mais il ne le croyait plus à présent. Il arrivait côté Liz réellement dans ses pensées, il le savait.
Jake se glissa dans la tente. Benny dormait toujours à poing fermé. Pendant plusieurs secondes, Jake contempla le jeune garçon, son aîné par l'âge, mais son cadet pour plein de choses importantes, en se mordant la lèvre. Il ne voulait pas créer de problème au père de Benny, pas s'il pouvait l'éviter. Jake s'allongea et remonta la couverture sous son menton. Jamais dans sa vie il ne s'était senti aussi incertain sur tant de sujets, et ça lui donnait envie de pleurer. Le jour avait commencé à poindre avant qu'il ait réussi à se rendormir.